France Culture.
Entrez donc dans la danse des Midi de Culture. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant. Tout à l'heure, à partir de 13h exactement, les Sparks seront mes invités. Mais d'abord, eh bien, c'est l'heure du Point Culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Depuis longtemps, les anthropologues se servent du cinéma pour témoigner de leurs recherches, bien sûr, mais aussi pour les poursuivre. On pense par exemple à Jean Rouch et à son documentaire Les Maîtres Fous, sorti en 1955, qui montre les pratiques rituelles d'une secte religieuse au Ghana et qui marque toujours autant les cinéastes. C'est à la jonction de l'anthropologie, de l'art conceptuel et du cinéma que travaille un duo de chercheurs, Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor. Ils poursuivent cette tradition du documentaire ethnographique. 4 longs métrages sortent en coffret DVD chez Potemkin et c'est une belle occasion pour découvrir ces films d'une puissance folle. L'anthropologie et le cinéma, c'est le dossier du Point Culture du jour. Verena Paravel, bonjour. Vous êtes cinéaste et anthropologue, vous enseignez également à Harvard. Votre travail que vous signez avec l'artiste et anthropologue Lucien Castin-Taylor est aussi bien visible en salle que dans les musées. Il s'agit de documentaires, on va interroger ce mot avec vous plus tard, mais documentaires qui ouvrent nos perceptions et donc notre compréhension du monde. Il y a 4 longs métrages qui sortent en coffret DVD chez Potemkin Film. C'est l'occasion pour nous de revenir avec vous sur votre travail. Comment le cinéma est devenu pour vous le moyen privilégié pour restituer vos recherches?
On est tous les deux des universitaires avec Lucien et on est tous les deux formés à l'anthropologie, mais on a tous les deux eu ce parcours où à un moment donné on s'est senti limité et on s'est dit que possiblement il nous fallait un autre moyen pour accéder justement en fait pour rôder un peu. Je pense que notre pratique artistique en fait elle rôde un peu autour des membranes, des frontières un peu poreuses comme ça entre tout ce qui est visible et invisible, tout ce qui est audible et inaudible.
Dans l'anthropologie, il y a quand même une tradition de films.
Oui, il y a une tradition de films et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs parce que je pense que en fait tous les deux, je pense que notre approche, elle se situe à l'intersection de 3 disciplines qui, à la fois, je pense, nous aiment et nous rejettent. C'est l'ethnographie ou l'anthropologie. Et en fait, on est en tension toujours avec cette discipline, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une discipline qui privilégie tout le temps l'interprétation, mais avec peut-être une certaine négligence pour l'expérience esthétique et surtout qui privilégie toujours le sens par rapport à l'être. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de travailler plus loin et que je pense que l'outil visuel et sonore, en fait, nous aide. Et le documentaire, en fait, aussi. Et on est aussi, vous l'avez dit au départ, toujours montré dans les musées, mais on est aimé, mais pas complètement accepté non plus. Et l'art conceptuel, en fait, à l'ambition esthétique qu'on admire, mais on avait l'impression que c'était souvent un peu déconnecté de la rugosité de la réalité parfois. Et donc, en fait, on est dans cette espèce de triangle des Bermudes au milieu. Appartenant un peu à tout et à rien, je pense.
Alors, avant de parler de la forme qui est évidemment centrale dans votre œuvre, mais peut-être sur le fond, comment choisissez-vous vos sujets? Dans le coffret, par exemple, 4 films, 4 univers, un chalutier dans une mer agitée, un cannibale, le corps humain, les rêves. Comment vous vient l'idée de faire un film sur un sujet?
Je pense qu'en fait, d'abord, c'est une question difficile parce que chaque film a bien sûr une histoire, une genèse. Moi, je trouve qu'il y a toujours une question au départ. On se demande toujours comment le cinéma il va pouvoir nous transformer en profondeur, comme notre être au monde, vraiment. Et comment, en fait, on pourrait comprendre cette humanité, en fait, comprendre les humains, mais pas forcément en expliquant les choses, mais en restant un peu lové dans le mystère ou dans la complexité. Je pense que on cherche en fait plus une forme de cinéma et parfois des sujets collent. C'est-à-dire, je pense que on fait un cinéma qui essaye d'écouter un peu au-delà de l'humain. et qui dissout les... Au fond, j'ai essayé de réfléchir, en fait, de voir l'objet coffret DVD, c'est hyper intéressant, parce que tout d'un coup, en fait, on les voit accoler, ces films, de façon très matérielle, comme ça, et j'ai regardé ce coffret, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui nous a pris de faire tous ces films, comme ça? Et effectivement, je me suis posé la question, et je pense qu'il y a quelque chose qui réunit tous ces films, et c'est peut-être que on essaye à chaque fois de dissoudre les frontières entre le corps, l'environnement et quelque chose de plus grand à laquelle on appartient. Et en fait, que ça soit la profondeur des mers, la façon dont l'humanité est reliée à l'océan, la façon dont on est relié entre tous les inconscients, l'inconscient collectif d'une époque avec Somniloquie, les tabous avec le cannibale, et puis ce film sur le corps et ses paysages, et le corps politique, le corps de l'hôpital. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui...
Ce qui relie, il me semble aussi, tous ces films, c'est la forme. C'est-à-dire qu'il y a une beauté stupéfiante des images. J'emploie le mot stupéfiant à dessein. C'est-à-dire qu'elle est, parfois, elle est tellement présente qu'elle est presque écrasante. Est-ce que c'est un effet que vous recherchez pour vos spectateurs? D'être un peu envahi par la beauté de ces images?
Disons que je sais pas trop parler de beauté. En revanche, je pense que quand on reste suffisamment longtemps dans un lieu et qu'on s'en saisit d'une façon, peut-être avec une approche un peu inhabituelle, on arrive à découvrir. Et tout à l'heure, je parlais de membrane, mais je pense que la beauté, elle va avec l'horreur aussi, toujours.
Et l'effroi.
Et l'effroi, bien sûr. Regardez Léviathan.
Léviathan qui se passe dans un chalutier.
Voilà.
Et on est vraiment au plus proche des pêcheurs. Vous avez d'ailleurs attaché des caméras sur les pêcheurs eux-mêmes.
Oui, sur leur corps, où on est à la fois dans cette forme de grande subjectivité, puisque la caméra est sur leur peau, et aussi, on pourrait dire, dans une forme d'objectivité absolue, puisqu'il n'y a aucune intentionnalité esthétique, puisque ce n'est pas nous qui dirigeons la caméra. Mais je pense que, voilà, quand on voit ces mouettes, on est dans la nuit, on voit des mouettes qui volent à l'envers. En fait, c'est à la fois des anges et des démons. Donc, en fait, il y a une cruauté incroyable dans Léviathan. Il y a du sang et tout se mêle, en fait. Et je pense que c'est pareil quand on est au plus profond des corps dans De Humani Corporis Fabrica, donc où on a filmé à l'intérieur des corps dans des hôpitaux. Il y a une beauté immense quand on s'installe à l'intérieur des corps et qui peut faire horreur. Mais il suffit de la regarder un peu plus longtemps et on commence petit à petit à découvrir quasiment le sublime et des paysages tellement abstraits qu'on pourrait se croire dans le cosmos, en fait. Et je pense que ça va vraiment de pair. Et du coup, on ne pense pas la beauté comme de façon isolée. En fait, on la pense toujours avec... avec son acolyte, l'horreur et l'effroi.
Bien, merci beaucoup, Verena Paravel. Je rappelle qu'il y aura une grande rétrospective de votre travail pour voir ces films magnifiques en grand. Et ça vaut vraiment le déplacement, chers auditeurs. Ce sera au Jeu de Paume du 10 au 22 juin. Merci beaucoup.
Merci.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, Éric de Chassé est nommé à la direction des Beaux-Arts de Paris.
Et oui, il prendra la tête de l'école des Beaux-Arts en juillet. Éric de Chassé a dirigé pendant 6 ans la Villa Médicis à Rome avant d'être à la direction de l'Institut National de l'Histoire de l'Art à Paris depuis 2016. Il succède à Alexia Fabre, dont la non-reconduction a été annoncée par le ministère de la Culture en février. Et il va devoir trancher très vite la question épineuse du rapprochement entre l'école des Beaux-Arts et l'école nationale supérieure d'architecture Paris Malaquais, qui partage le même lieu en face du Louvre, sujet tendu qui avait déclenché une grève dès 2024 et le départ précipité de l'ancienne directrice.
Et pour finir, Marie, le Grand Prix de l'Académie des Beaux-Arts en photographie 2025 a été décerné à Sarah Moon.
Les instantanées de la photographe née en 1941 nous plongent dans un univers onirique où le flou des scènes comme des personnages confère à son travail une esthétique éthérée, très reconnaissable. L'Académie des Beaux-Arts récompense une artiste qui, je cite, a travaillé à faire d'une photographie une fiction d'une seconde. Le prix est doté de 30 000 euros qu'elle est invitée, comme tout lauréat, à répartir entre plusieurs artistes dont elle apprécie l'œuvre ou l'action.
Et merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles.
À demain.
À demain. En attendant, eh bien, il est bientôt 13h et vous êtes sur France Culture.